Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine est certainement... Ça va être l'actualité dès lundi, retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Bien évidemment, partout dans le monde, chacun essaie de voir quel sera l'impact de ce retour sur son économie. C'est le cas, bien évidemment, en Afrique. On essaiera de voir ce que ce retour de Donald Trump au pouvoir donc annonce pour les économies africaines. Nous en parlons avec notre analyste Idriss Lingé. Ce sera dans quelques minutes. Mais avant cela, nous parlerons de développement des entreprises africaines à l'international, comment ces entreprises essaient de s'exporter, mais aussi de nouer des partenariats avec d'autres entreprises basées ailleurs que sur le continent. Nous en parlerons dans le Zoom Express en prenant l'exemple de la Chambre de commerce Québec-Afrique. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, nous allons parler de développement des entreprises africaines à l'international. Et nous prenons l'exemple de la Chambre de commerce Québec-Afrique, dont nous avons le plaisir de recevoir donc le président qui est basé au Togo. Il s'agit de Monsieur Kokodoko Yaovi. Bonjour à vous, Kokodoko Yaovi, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Baldé, tout le plaisir est pour moi.
Le plaisir est partagé, ainsi que celui de recevoir Mustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui connecte les diasporas africaines entre elles, mais aussi les met en contact avec les investisseurs basés partout dans le monde. Bonjour à vous, Mustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, je commence par Monsieur Kokodoko Yaovi. Alors, parlez-nous d'abord de la Chambre de commerce Québec-Afrique.
La Chambre du commerce Québec-Afrique est une organisation qui vise à amplifier et à renforcer le volume d'échanges entre le Québec et l'Afrique et par-delà le monde. L'idée principale étant d'amener les modèles de développement et de fonctionnement au niveau du Québec aux entreprises africaines pour qu'il puisse y avoir émulation.
Mmh. Alors, cela dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a suffisamment d'entreprises africaines prêtes à s'exporter dans des destinations quand même assez lointaines comme le Québec?
Oui, nous avons beaucoup de demandes, mais il faut dire aussi que le principal défi que ces entreprises ont, c'est surtout déjà adopter des modèles de fonctionnement occidental et des modèles qui puissent leur permettre de s'expatrier. Donc, dans la première phase, nous les accompagnons surtout à adopter des méthodes de travail qui leur permettent plus tard de pouvoir s'exporter.
Alors, justement, je me tourne vers Mustapha El Bouri. Alors, Mustapha El Bouri, comment voyez-vous aujourd'hui, en termes de fonctionnement, de process, de standards de fonctionnement, donc, comment voyez-vous évoluer les entreprises africaines par rapport aux best practices qui se font à travers le monde?
Il y a des exemples à suivre, un benchmark. Moi, je citerai, par exemple, le groupe La Belle Vie marocain. Non seulement a commencé par prendre des parts et a ramené la franchise Carrefour Maroc, mais maintenant, en France, il a racheté près de 50 Carrefour Market. Voilà, donc on a des entreprises qui sont de niveau, mais ils ont besoin d'accompagnement. Et je pense aussi qu'il y a énormément à faire en termes d'accompagnement dans les entreprises qui doivent d'abord transformer leurs produits pour pouvoir peut-être, je parle surtout au niveau agricole, et agribusiness. Il y a un marché énorme au Canada et aux États-Unis, avec les accords de libre-échange. Mais il faut, dans un premier temps déjà, amener ces entreprises à transformer leurs produits pour pouvoir les exporter dans un premier temps. Mmh. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond vraiment à faire avant.
Mmh. Alors justement, Kokodoko Yaovi, je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce Québec-Afrique. Aujourd'hui, de la part des entreprises africaines, qu'est-ce qui est le plus attendu dans ce type de partenariat avec des entreprises basées en dehors du continent? Si je prends par exemple le cas de la Chambre de commerce Québec-Afrique.
En fait, ce qui est surtout attendu des entreprises, je dirais au niveau du Québec, c'est surtout le transfert de connaissances. Mmh. C'est-à-dire que nos entreprises, généralement ici, s'adaptent localement, mmh. mais le fonctionnement au niveau local n'est pas exactement pareil au fonctionnement hein, à l'export. Du coup, ce qui est beaucoup, beaucoup demandé, c'est des formations, des accompagnements et des ateliers mmh. pour pouvoir découvrir d'autres façons de faire, s'adapter déjà au contexte mondial hein, en termes de code, en termes de dynamique et demander ensuite hein, des accompagnements vers l'export.
Alors, est-ce que les autres entreprises basées, par exemple au Québec, attendent la même chose ou que recherchent-elles?
Les entreprises québécoises, par contre, recherchent plutôt de nouveaux marchés. Donc, quand eux, ils s'adressent à nous, c'est surtout pour comprendre les dynamiques de ces nouveaux marchés-là, avoir des interlocuteurs crédibles surtout, parce que beaucoup craignent aussi un peu, ils ont des aperçus ou bien des idées préconçues sur la dynamique ou bien le business en Afrique. Donc, ils veulent avoir des interlocuteurs crédibles et surtout avoir des informations essentielles hein, sur le marché et les connexions au niveau du marché. Pour résumer, ils cherchent surtout de nouveaux débouchés.
De nouveaux débouchés. Alors, quels sont aujourd'hui les débouchés qu'offrent les entreprises africaines à ses partenaires étrangers?
Je dirais, au niveau des débouchés, je pense que l'Afrique a un très grand marché, très dynamique et très jeune, surtout en termes de consommation. Nous sommes présents, par exemple, la Chambre du commerce Québec-Afrique est présente au niveau de 17 pays. Donc, c'est un énorme marché. Donc, surtout au niveau de l'agroalimentaire et de la transformation. Surtout ces domaines-là, la consommation, hein, le marché de consommation que nos entreprises hein, ont à offrir aux entreprises étrangères.
Alors, Moustapha El Bouri, vous voyez aujourd'hui ce partenariat évoluer à travers la plateforme Best Afrique. Vous voyez aujourd'hui les demandes qui s'expriment de part et d'autre. Et il y a aujourd'hui, cette demande, cette nécessité de co-investissement, de ce partenariat win-win, gagnant-gagnant, selon vous, est-ce que dans la réalité, cela se constate ou on est plutôt dans une logique de commercialisation?
Pour être franc, je pense qu'à l'heure actuelle, on est plus dans la commercialisation de nos produits. Hein. Maintenant, le win-win, oui, parce qu'on apprend, on apprend. À renforcer notre compétitivité. Mais comme a dit Yaovi, comme l'a souligné, il y a encore un grand besoin de formation, de conseils et on doit aider nos entités en termes d'incubation et d'accélération, hein, surtout les startups. Hein. Maintenant, pour ce qui est de l'agribusiness, je pense que là, c'est un secteur où on a un avantage, c'est qu'on a encore une grosse partie de nos terres qui ne sont pas exploitées. Et des pays comme le Canada arrivent à saturation. Hein. C'est l'un des, par exemple, je vais prendre un exemple concret, c'est l'un des premiers exportateurs de lentilles. D'ailleurs, ils exportent beaucoup sur l'Afrique, mais maintenant, ils cherchent des nouveaux. Moi, je sais qu'ils cherchent des nouveaux débouchés sur le continent pour pouvoir produire ce produit en plus grande quantité. Donc, je pense qu'il y a matière à faire. Oui, il y a matière à faire un partenariat win-win. Mais bon, on n'est pas en position de force pour l'instant. On doit encore travailler. Il faut travailler et il faut amener nos entreprises à un certain niveau. Mais voilà, la porte est ouverte. Et je pense qu'il faut inclure, c'est là qu'il faut inclure aussi, on n'en a pas parlé, mais il faut inclure la diaspora. Parce que quand on parle d'entités ou d'entreprises canadiennes, il y a beaucoup de personnes de la diaspora. Il y a pratiquement déjà, ils sont pratiquement 3 millions hein, au Canada. Donc il y a beaucoup de cadres exécutifs qui sont dans les entités hein, canadiennes. Donc il faut les utiliser, il faut communiquer avec eux. Et c'est le rôle aussi que jouent aussi des entités comme Chaka. Et on est en train de voir aussi avec Best Afrique comment pouvoir faire des partenariats à ce niveau-là.
Chaka, donc c'est la Chambre de commerce Québec-Afrique, dont le
Tout à fait.
président est avec nous, donc Kokodo Dokoyaovi. Alors, Kokodo Dokoyaovi, quels sont, selon vous, les secteurs appelés à davantage soutenir ces partenariats-là?
Bon, les secteurs qui sont appelés à soutenir, je dirais, l'agro-business, ça c'est tout ce qui est agriculture et transformation. J'ajouterai aussi beaucoup la formation, l'accompagnement, le mentorat. Je pense que ces deux secteurs ont un besoin crucial d'accompagnement et d'interconnexion avec ce qui se fait ailleurs.
En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Kokodoko Yaovi, président de la Chambre de commerce Québec-Afrique, d'avoir partagé donc ces réflexions avec nous. Merci aussi à Moustapha El Bouri, qui nous accompagne donc à travers cette rubrique que nous consacrons à la diaspora africaine. Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Coémergence, l'invité.
Il s'appelle Idriss Lingé. Il est le directeur des rédactions de la plateforme Media Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin. Bonjour à vous, Idriss Lingé.
Bonjour Romain Baldi.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans les titres, le monde attend donc le retour au pouvoir de Donald Trump. C'est dès ce 20 janvier, donc lundi prochain. Alors, Idriss Lingé, que peut-on attendre justement du retour de Trump au pouvoir cette année et qu'est-ce que cela implique pour les économies africaines?
Bon, l'importance de tout président qui arrive aux États-Unis tient surtout du rôle influent que représente cette économie à l'échelle du monde. C'est le plus gros, la plus grosse économie en termes de produits intérieurs bruts, mais aussi les États-Unis sont l'un des plus grands investisseurs au niveau international et détiennent la monnaie qui représente encore jusqu'à 78% des échanges mondiaux, même si elle a progressivement perdu du terrain pour pouvoir grandir des monnaies comme le yuan ou alors ou encore la rouble russe. Donc, le dollar américain reste la monnaie des réserves de beaucoup de pays africains. Donc, forcément, la manière dont un dirigeant emmène l'économie des États-Unis a des répercussions peut-être indirectes sur les économies africaines. Donc, du coup, l'arrivée de Trump, malheureusement, reste toujours analysée sous le prisme de son caractère. Qui peut être un caractère qu'on peut juger, hein, parfois anticonformiste. Mais après, il faut dire que Donald Trump a été voté sur une promesse, il a été voté sur un mandat et il va essayer de mener ce mandat jusqu'au bout. Maintenant, ce que les analystes disent, c'est qu'il y a beaucoup moins de craintes, notamment à avoir, notamment lorsqu'on dit que Trump va imposer, par exemple, 60% de taux de douane aux produits chinois. Les analystes aujourd'hui pensent que ce ne sera pas au lendemain, normalement, de sa prise de fonction. Il le fera progressivement parce que même au niveau de l'économie américaine, un taux de 60% sur les produits chinois ne peut pas être absorbé. Déjà, rien que parce qu'il a dit ça, les Américains ont massivement acheté des produits chinois, ce qui a fait qu'il y avait une très très forte demande de biens chinois. Donc, l'autre chose aussi qu'on dit, c'est qu'il va réduire les impôts et donc forcément, il va encourager le déficit public aux États-Unis. Ce qui veut dire que beaucoup de gens vont commencer à avoir besoin du dollar et on a l'impression que si les gens ont besoin du dollar, la valeur du dollar va augmenter, ce qui peut affecter les économies africaines qui doivent rembourser des dettes. Parce que quand vous devez rembourser des dettes avec, par exemple, un dollar haut, bah, le problème, c'est que vous devez avoir plus de ressources en interne pour le faire et ça crée un déséquilibre sur les plans macroéconomiques.
Alors,
bon, c'est des choses qu'il faudra suivre. Vraiment, rien n'est prédéfini. Il faudra voir comment Trump aligne ses premières heures de gouvernance.
En tout cas, on a déjà vu, donc, si je peux m'exprimer ainsi, la première mi-temps donc de Trump est là. C'est donc la seconde période qui s'ouvre. Alors, on sait que les États-Unis ne sont pas le seul acteur mondial hein, dans la bonne marche de l'économie aujourd'hui. Les BRICS peuvent-ils, par exemple, continuer d'être une alternative sérieuse pour l'Afrique?
Je pense que l'histoire de la progression mondiale, hein, là j'invoque l'histoire, parce que nous parlons beaucoup des conflits mondiaux en restant sur les 20-30 dernières années. Mais l'histoire de l'évolution économique mondiale montre que l'influence majeure des économies du monde a toujours été dessinée par le bloc occidental et le bloc asiatique. OK? Et d'une certaine manière, les autres blocs, notamment le bloc Afrique, le bloc Amérique latine, qui à l'époque était peuplé par des Indiens, des personnes d'origine indienne, étaient un peu passifs. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque la Chine était une superpuissance économique il n'y a pas longtemps, hein, dans les années 1820, cela avait poussé les Espagnols à venir chercher des esclaves en Afrique pour aller travailler sur les mines d'argent afin de pouvoir payer les marchandises en Chine. Et puis un jour, la Chine a perdu son leadership à la suite d'une guerre et le bloc occidental a développé son leadership économique en commençant par la Grande-Bretagne et aujourd'hui les États-Unis qui ne sont que une partie des Britanniques qui s'étaient révoltés pour aller s'installer en Amérique. Donc voilà, c'était un peu pour l'histoire. Alors, le rôle de l'Afrique ne peut être défini que si l'Afrique elle-même se définit ses propres objectifs. Le véritable problème de l'Afrique, c'est que parfois on dit, oui, on en a marre des Français, on va maintenant traiter avec les Russes. Oui, on en a marre des Américains, on va maintenant traiter avec les Chinois. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas une bonne approche. Une approche, par exemple, et encore sans faire de publicité, comme celle du Maroc, me semble être une approche pertinente. Déjà, un, le Maroc n'a pas une seule devise avec laquelle la Banque centrale traite. Le Maroc a un panier de deux devises au moins qui permet au Maroc d'avoir de la flexibilité. De deux, le Maroc a une vraie politique de gestion de ses partenariats internationaux axée sur sa propre richesse. Donc, de ce point de vue, rien que sur ce point de vue, je pense que la manière dont les influences entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis vont se mettre en place dépend de la capacité des pays africains à suivre l'exemple marocain et même à améliorer l'exemple marocain. Et comme je l'ai toujours dit, une chose à faire dans l'immédiat, c'est d'abord, un, de mettre effectivement en place la SLECAF, deux, d'enlever toutes les barrières de passeport en Afrique pour que l'Afrique puisse aller vers l'Afrique et pouvoir investir en Afrique, et de trois, créer un vrai cadre économique régional qui nous permettrait de pouvoir booster notre secteur privé et les autres ne viendraient que travailler à nos propres conditions. Malheureusement, cette politique ne se dessine pas.
Alors, quand vous parlez des autres, on pense par exemple à la Chine qui traverse plutôt une mauvaise passe sur le plan économique malgré la hausse de ses exportations en 2024. Alors, la Chine semble attaquée de toutes parts. On pense aux Européens, on pense aussi aux menaces de Trump. Mais cette Chine est le premier partenaire économique du continent. Comment voyez-vous ces engagements et ce développement du partenariat économique entre l'Afrique et la Chine se concrétiser sous cette ère Trump, par exemple?
Bon, déjà, ces partenariats ne vont pas changer parce qu'ils sont basés sur des contrats qui ont une durée précise, hein. La Chine est devenue une alternative à partir du moment où elle a été capable de produire, de vendre à l'Afrique des produits qui étaient achetables à des prix très bas, même si après, parfois, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas toujours la qualité, mais bon, ça dépend encore de celui qui négocie. Donc, je ne pense pas que ces accords vont être remis en question. C'est des accords qui sont régis par le droit international. C'est des accords de long terme. Et puis, la Chine a très bien compris qu'il y a quelque chose qui changeait. Rappelle-toi, lors du dernier sommet avec les pays africains, la Chine non seulement a promis de mettre 50 milliards de dollars, évidemment, les Africains ont crié partout, ouais, super et tout, mais en réalité, ça représente que dalle, 50 milliards de dollars sur 5 ans, parce que 50 milliards de dollars, c'est ce que Taïwan a investi aux États-Unis pour construire d'autres usines de semi-conducteurs. Je parle uniquement de Taïwan, je ne parle pas de la Chine. Donc, la Chine, vous pouvez imaginer sa puissance. Par contre, il est important que l'Afrique tiennent compte aujourd'hui de cette redistribution des rôles au niveau mondial afin de tirer davantage profit de ces relations internationales.
Juste toujours sur cette idée-là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la diplomatie africaine et les États africains se sont suffisamment préparés pour affronter cette nouvelle phase de confrontation et de guerre économique qui s'ouvre sur la scène internationale?
Je vais tout de suite répondre que non, c'est des niveaux de préparation complètement divers. Comme je le disais, vous avez des pays comme le Maroc qui sont super bien structurés. Quand vous lisez la politique économique, la diplomatie économique marocaine, ben vous voyez très bien comment ce pays se positionne. Des pays comme l'Afrique du Sud qui ont un pouvoir économique contrôlé déjà par des capitaux étrangers, mais avec une grande connexion des capitaux européens, mais avec une grande connexion vers l'Asie, parviennent aussi à jouer ce rôle. Mais pour le reste, dans l'ensemble du continent, c'est des politiques qui sont totalement illisibles. Vous ne savez même pas exactement où ils vont. Et justement, là où l'Union africaine devrait être capable de porter et de jouer ce rôle, malheureusement, l'Union africaine manque simplement de coups d'effrange pour emmener les pays en tant que leader qu'ils représentent. Donc ça, c'est un vrai problème. Et tant que ce n'est pas réglé, les autres viendront toujours nous diviser. Je te prends un cas simple. En RDC, aujourd'hui, la RDC a signé 4 mémorandums d'entente avec des pays différents pour réserver des minerais critiques. Okay, avec l'Arabie Saoudite, le Japon, avec les États-Unis, avec l'Union européenne. Mais quelle est la vision même qu'on peut avoir en RDC par rapport à toutes ces opportunités? Ça mérite encore d'être clarifié afin que le pays puisse pleinement jouer son rôle de pays pivot dans la transition énergétique avec des minerais estimés à près de 24 000 milliards de dollars selon des chiffres officiels récemment consultés.
Merci à vous. Idriss Lindje, je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Media Mania qui édite entre autres la plateforme panafricaine Ecofin. C'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine dans Coémergence. À la semaine prochaine, Idriss Lindje.
Au revoir, Omar. À la semaine prochaine.
Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.